France Inter.
Aujourd'hui, on a des milliers de tonnes de déchets qui sont stockés au fond de cette mine. Et les choses sont simples, si on ne fait rien, si on ne confine pas, c'est ce que disent des dizaines d'expertises, on risque une contamination de la nappe d'Alsace si on ne confine pas. Donc il faut confiner. Avant 2027, parce que c'est l'année à partir de laquelle nous n'aurons plus les moyens de descendre au fond de cette mine. Ça, il n'y a pas le choix.
C'était en novembre dernier. Christophe Béchu, alors ministre de la Transition écologique, confirme l'enfouissement définitif de 42 000 tonnes de déchets toxiques dans les anciennes mines de sel de Wittelsheim en Alsace. Ces déchets, impossibles à recycler, ont été descendus à la fin des années 90. Des milliers de fûts et de sacs d'arsenic, d'amiante, de chrome et autres métaux lourds, entreposés à 500 mètres de profondeur. Le projet s'appelait Stockamine. Il prévoyait la reconversion des galeries en site de stockage unique en France. À l'époque, les mines de potasse d'Alsace voyaient la fin de l'activité minière approcher. Les habitants, les mineurs, les élus s'inquiétaient de l'avenir économique de toute la région. Et Stockamine était présenté comme une opportunité, avec la bénédiction de l'État et même des garanties sur la traçabilité des déchets et la réversibilité du stockage.
C'était surtout la pression des mines, la pression de l'État, mais aussi les syndicats des mineurs qui perdaient un peu plus de 13 000 emplois. On pensait bien faire dans l'intérêt des mineurs, de l'environnement, de tout ce qu'on nous a dit. En fait, c'est la logique commerciale qui l'a emporté sur la logique sécurité.
Car le projet Stockamine a tourné au fiasco. En 2002, un incendie révèle la présence de déchets interdits au fond de la mine. Le stockage s'arrête et le bras de fer commence. 20 ans de procédures, d'études, de rapports, de batailles entre les partisans d'un retrait des déchets et les partisans d'un confinement. L'option finalement retenue sur la base de plusieurs expertises, à cause des risques d'un déstockage, à cause de l'urgence, car la mine s'effondre, et en donnant une nouvelle garantie, un sarcophage de béton pour protéger la nappe phréatique rhénane d'une éventuelle pollution future.
L'expertise qui se porte sur 200-300 ans, c'est la boule de cristal. Non, il y a une volonté politique de tout laisser au fond, voilà, c'est clair. Donc on nous a trompés, la réversibilité est inscrite, on sortira tout au moindre pépin, alors qu'au fond, tout le monde savait qu'on allait tout laisser au fond, c'est ce manquement de la parole de l'État.
Interception vous raconte aujourd'hui l'histoire de Stockamine. Une histoire où des intérêts économiques à court terme ont primé, où des citoyens et leurs représentants, inquiets de l'avenir, ont fait confiance. Une histoire où l'État s'est discrédité par ses promesses non tenues, son opacité, ses tergiversations. Stockamine, déchets toxiques sous nappe phréatique, c'est un reportage de Julien Penaud qui nous emmène d'abord dans les entrailles de la Terre, à la découverte du site de stockage de déchets de Wittelsheim au fond des mines de potasse d'Alsace, les MDPA.
Interception, le magazine de reportage de la rédaction de France Inter.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour, messieurs.
France Inter.
Bonjour.
Bonjour. On aurait de vous enregistrer sur
ouais.
Le cahier, s'il vous plaît.
Très
bien. Je vais vous donner aussi deux badges visiteurs.
D'accord.
On va demander une cordée, on va vous équiper. Donc on va vous fournir des vêtements, chaussures, casques, lampes, tout ce qu'il faut pour descendre dans la mine. Donc Nicolas Poirot, je suis le directeur technique des mines de potasse d'Alsace.
David, il y a quelqu'un qui peut venir pour fournir les vêtements.
Donc là, vous nous donnez casque, gilet,
t-shirt, pantalon, chaussettes,
ah oui,
chaussures,
vous nous rhabillez, quoi.
Casque, lampe et phaser. On va vous expliquer phaser. En fait, c'est une mine épisodiquement grisouteuse.
Ouais.
Et donc, il y a des précautions à prendre.
C'est-à-dire ?
Parce que ATEX, ça veut dire atmosphère explosive. Donc il peut... Cette mine est classée épisodiquement grisouteuse, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des venues de méthane et un risque d'explosion. Il y a un puits Joseph et le puits Else. Le puits Joseph, on va descendre par le puits Joseph. Le puits Joseph est le puits d'entrée d'air. Donc l'air rentre dans la mine par le puits Joseph et ressort par le puits Else.
Là, c'est le fameux ascenseur.
Oui, c'est ça. On appelle ça effectivement... Une cage, bon, c'est l'équivalent d'un ascenseur, sauf que c'est une infrastructure typiquement minière. On peut mettre du matériel en haut et du personnel en bas. Ah oui, on est loin de l'ascenseur.
On descend à combien là ?
À 530 mètres de profondeur dans un premier temps, 534 pour être exact. Et puis ensuite, vous verrez, le site du stockage où on va circuler n'est pas horizontal. Il descend, donc on est autour des 550-600 mètres au maximum.
Et déjà là, il fait noir là.
Il fait noir, oui, très rapidement, vous verrez. On a encore un peu de lumière de la surface.
On va activer la lampe. Donc là, on est dans un transport personnel. C'est un engin qui permet de circuler dans la mine, qui est assez bas forcément, parce que c'est des galeries. Voilà. Ça fait à peu près 3-4 mètres de large. Et puis il y a un conducteur, un opérateur qui est au volant. Et on a mis des bouchons d'oreilles parce que ça fait beaucoup, beaucoup de bruit. D'arriver, on est dans l'obscurité totale, il n'y a que nos lampes torches qui nous éclairent. On a parcouru des galeries, c'est très poussiéreux. Il y avait donc cette machine qui faisait beaucoup de bruit. On a un plafond qui est à peu près 2 mètres de notre tête, 1 m50, 2 mètres de notre tête. Et donc là, on va s'approcher donc du site de stockage.
Ici, on est exactement au centre du stockage. Donc ça, c'est ici le stockage que vous voyez sur le plan. Nous, on était ici au puits Joseph. Donc, on est passé ici, par là. Maintenant, on est ici. Donc, on est vraiment au centre, au milieu du stockage. Régis Fischer, directeur technique adjoint des mines de potasse d'Alsace. Comment a été conçu en fait le stockage ? Les endroits où ont été stockés les déchets, donc ce sont des allées. Qui ont été, en gros, ce sont des galeries qui ont été creusées, qui faisaient 5,50 m de largeur par 3 m de hauteur. Donc on voit des allées et ce qu'on appelle des recoupes qui sont perpendiculaires aux allées.
Il y a combien de blocs ?
10 blocs. 10 blocs qui ont été stockés et 2 blocs en fait, qui étaient en cours de réalisation et qui n'ont pas pu être stockés puisque l'exploitation du stockage a été arrêtée et ce sont des blocs vides.
42 000 tonnes, c'est ça, de déchets ?
Oui, c'est ça. Oui. C'est une zone qui bouge régulièrement. Là, vous pouvez voir d'autres types de renforts assez important ici avec un pilier béton. Donc vous voyez un pilier en selle ici, un pilier en selle à droite. Et au milieu, en fait, il y avait un vide. Entre ces deux piliers, on est venu renforcer puisqu'en fait, on avait le toit qui descendait de plus en plus. On a des mesures régulières pour s'assurer que l'ensemble de la mine est stable. Et quand on remarque des anomalies, on fait un suivi un peu rapproché et on décide des confortements à mettre en place. Ici, on a mis un pilier béton avec des renforcements importants métalliques que vous pouvez voir. Ça, on l'a fait en 2019. Et là, cette année, l'année dernière, on a été obligé de renforcer la galerie d'accès puisqu'en fait, on voyait des déformations de plus en plus importantes et qu'on a dû fermer, sécuriser pour assurer des accès au stockage. Tant que ce n'est pas confiné, c'est de garantir un accès à l'ensemble des blocs de stockage.
Ça bouge de combien ? 3-4 cm par an ? Est-ce que vous avez...
Alors après, ça dépend des zones, ça dépend des secteurs. Il y a des secteurs qui bougent un peu plus que d'autres. Mais on est autour, entre 2 et 4 cm par an à peu près.
Ça demande énormément d'entretien, 5,5 à 8 millions d'euros par an. C'est colossal.
Ah oui, c'est colossal, oui, c'est colossal. Et en fait, ça va aller de pire en pire. Si on attend, en fait, la mine se referme et on n'arrive pas à la retenir indéfiniment. Ce type de renforcement, moi je suis arrivé maintenant il y a 4 ans, on en faisait très ponctuellement, on en a fait un au milieu bloc, et là en fait on a fait du cintrage, on a fait ces renforts-là, on a fait d'autres renforts un peu plus bas, d'autres types de renforts, mais on en a fait également.
Bonjour.
C'est vous qui étiez au volant de la machine, c'est ça ?
Du TP13, oui, c'est ça.
Quel est votre quotidien ici à stockage ?
De regarder toutes les voies, de sécuriser toutes les voies. S'il y a un souci, s'il y a un problème, s'il y a des fuites d'eau, d'air, tout ça. Vérifier s'il n'y a pas de CH4, du gaz. Au début, quand j'ai commencé à travailler, les piliers étaient sains. Il n'y avait rien, il n'y a pas de pression, rien du tout. Hein.
Ah, là, par exemple, celui qu'on voit qui fait bien 4-5 mètres d'épaisseur, là, il faisait.
Il avait 3 mètres de large. Hein. Et maintenant, avec la pression, ça s'élargit et ça ballonne hein, sur les côtés.
Oui, ça vous travaille, ça, le fait qu'on soit un peu en stand-by comme ça?
Oui. On voit qu'il y a des fissures, on est au bout des piliers qu'on doit renfoncer à chaque fois. Vous voyez bien, on met des piliers en béton en ce moment. Un pilier qui prend de la pression, voilà, ça s'affaisse et ça s'écarte sur le côté. C'est pour ça qu'on met des piles fixes et le béton, qu'il n'y a pas trop de pression. Vous voyez très bien qu'on a mis des cales là. Là, tout est compressé avec la pression du terrain.
Donc c'est continuellement comme ça
qu'on doit sécuriser les voies. Tous les ans, tous les 6 mois, on doit vérifier toutes les voies pour voir si on doit sécuriser, mettre des lames, des broches, des soutenements. Et tant que ça se termine. Qu'on termine, qu'on met le béton en place et voilà que c'est le mieux pour tout le monde. Parce que pour sortir des déchets, pour moi, c'est même plus la peine, c'est même plus accessible parce que c'est trop dangereux. Le mieux, c'est de confiner et de mettre du béton et basta. Et on n'en parle plus.
Régis Fischer, donc là, on est devant l'un des blocs.
On est au niveau du bloc 24 à Léline. Donc là, vous avez les planches en bois. Derrière, vous avez une bâche. Et derrière cette bâche, on a un barrage en mousse expansive, spécifique au souterrain. Donc derrière, il y a des déchets. Donc soit des big bags, soit des fûts métalliques.
Donc un big bag, c'est ce genre de gros sac qu'on voit, de 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. C'est un
voilà,
cube,
c'est
en fait.
Oui, c'est un cube. Oui.
Qu'on a mis dans les années 90, début 2000, sur des palettes et qu'on a entreposé comme ça, comme des petits cubes. Quoi.
Oui, voilà, c'est effectivement... Donc, des big bags qui sont entreposés d'abord sur une première ligne horizontale et ensuite on allait remettre une deuxième ligne horizontale par-dessus.
C'est des déchets très dangereux, c'est des classes 0 et classe 1, donc le chrome, l'arsenic, ce genre de... Donc c'est des déchets vraiment très dangereux.
Alors les déchets de classe 1, ce sont surtout des résidus d'incinération, des résidus de fumée d'incinération de nos ordures ménagères. Donc là effectivement on est quasiment à la moitié du stockage qui est composé de ce type de déchets. Et les classes 0, ce sont plutôt des déchets industriels de l'industrie française hein, qui ont été stockés ici. On a également quelques déchets, une partie de déchets amiantés. Je précise aussi que ce sont des déchets ultimes qu'on ne peut plus recycler. On ne sait plus aujourd'hui quoi en faire, c'est important de le dire. Et aujourd'hui, ce même type de déchets est envoyé, est toujours produit en France, mais on n'a pas de centre de stockage en France. Le seul centre de stockage qui existait, c'est celui de Stockamine. Aujourd'hui, on les envoie dans des mines de sel en Allemagne. Clairement, aujourd'hui, on a, nous, une cartographie des blocs avec les déchets bien identifiés, le producteur associé, à quelle époque, à quelle date c'était mis en place.
Il y a une traçabilité des big bags.
Oui, il y a une traçabilité de l'ensemble des déchets et ça a été, ces éléments ont été confortés lors du déstockage entre 2014 et 2017, où en fait, on n'a eu aucune surprise. Tout ce qui était prévu de rencontrer sur le chemin du déstockage, en fait, a été clairement validé de visu.
Donc là, bloc B24, là, les sacs, ils sont à fleur du plafond. Ils sont vraiment au contact,
oui.
Quoi.
Oui, clairement. Il y a un contact, effectivement, entre le toit à pas mal d'endroits, ça a été observé. Certains big bags étaient écrasés, le toit qui descend, mais on a surtout le soufflage du mur, en fait. Donc le sol en fait, il pousse, il se lève, il pousse, et en fait, il pousse les déchets vers le haut.
Et ça prend en sandwich,
en fait. Ça prend en sandwich, que ce soit vers le haut ou vers le bas, ça prend en sandwich, et du coup, ils sont tendus. Et au déstockage, entre 2014 et 2017, ça a posé de gros problèmes, en fait, en termes d'extraction, avec les risques inhérents au type de déchets dangereux. Et à ça va se rajouter les risques miniers. Les études, aujourd'hui, démontrent aucun intérêt, aucun bénéfice environnemental pour un déstockage. Ici, aujourd'hui, on est à 500 mètres de profondeur, on est dans une mine de sel. Il faut s'imaginer que les sels et les marnes, ce sont des terrains étanches. Les puits de mine sont les uniques entrées possibles d'eau dans la mine. Et là, rentrent en compte les ouvrages qu'on va réaliser. De fermer l'ensemble des 12 accès avec des bétons très peu perméables pour ralentir au maximum l'entrée de l'eau, de la saumure, puisqu'elle sera chargée en sel, dans le stockage. Le scénario, c'est que, en se refermant la mine, en fait, va expulser la saumure qui aurait été au contact des déchets et va remonter. L'idée, c'est de retarder au minimum de 1000 ans. Et l'idée finale, c'est la mine de sel, en fait, qui se referme en pourtour et encercle ce stockage.
Le scénario prévu c'est celui de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, l'INERIS. L'affaissement des galeries va provoquer la fermeture naturelle de la mine en emprisonnant les déchets dans les couches de sel qui sont étanches. Le scénario du pire, en revanche, prévoit que l'eau finisse par entrer en contact avec les déchets, puis remonte dans la nappe phréatique rhénane qui alimente 10 millions d'habitants. Échéance 300 à 600 ans avec un sarcophage en béton. C'est le choix fait par l'État pour le confinement définitif des déchets. Coût de l'opération 150 millions d'euros, alors qu'un déstockage complet aurait coûté trois fois plus. On est loin, très loin, des promesses de la fin des années 90, quand la reconversion des mines était présentée comme une chance et Stocamine comme une bonne solution pour protéger l'environnement. On retrouve Julien Penaud au musée de la mine et de la potasse de Wittelsheim.
France Inter. Intersection.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ouais. Très bien, ouais.
Ça vous va si on rentre un peu?
Oui, on peut rentrer si vous voulez.
Bonjour.
Donc ici nous pénétrons dans la salle des pendus. Donc la salle des pendus, qu'est-ce que c'est? Finalement, c'est le vestiaire de la mine.
On a plein de petits fils suspendus au plafond et sur lesquels on a accroché des tenues, des bleus de travail, des casques. De travail, c'était les tenues des...
Ouais, c'était la tenue du mineur avant, quand il descendait au fond. Donc je m'appelle Jacques Holder, président de l'association Calivi, qui est là pour sauvegarder cette mémoire du mineur. Et donc j'ai travaillé 25 ans au fond de la mine, et issu d'une famille de mineurs, hein, donc mon père, mon grand-père, j'ai un frère qui a travaillé aux mines aussi, la plupart de mes oncles. Chaque mineur avait un matricule, hein, donc il descendait ses habits, hein, comme je le fais là. Et donc, il récupérait ses habits, mettait ses habits civils en place, et inversement, quand il remontait, il faisait exactement le même chemin. Alors ici, il y avait 600 mineurs qui travaillaient, hein, d'où aussi ces crochets suspendus. Hein, ça permettait effectivement un gros gain de place.
Bonjour.
Bonjour.
La salle des pendus. C'est là où il y a tellement d'émotions qu'il y a quelque chose de fantastique qui se passe là. Donc moi, il faut que je vienne là tous les jours. C'est-à-dire, je ne peux pas passer faire une commission dans les grands magasins sans passer, parce que c'est là, c'est toute ma vie. Je m'appelle Paul Didier-Laurent, dit Pauli. Hein. 14 ans et demi, je suis rentré au centre d'apprentissage des mines et mon numéro, c'était le 144, celui avec le cadenas là. Ça, c'était mon numéro. C'est là que je me suis déshabillé la première fois en 1953, quand je suis rentré pour la première fois ici. C'est toujours un moment d'émotion. Mon père était de l'autre côté, là, mais le 585, là-bas. Donc, on était mineurs de père en fils. Et il y avait 30% de mineurs polonais, il y avait 10% de mineurs italiens, il y avait des commerçants, des artisans qui travaillaient ici. Et tout ce beau monde, tous ces bonhommes-là ont disparu. C'est pour ça qu'il y a tellement d'émotion pour moi de rentrer là-dedans. Parce que sur chaque numéro, je mets un visage. Et tous ces visages ont disparu.
Jacques Holder, à quand remonte le premier coup de pioche ici?
Alors le premier coup de pioche, mais il remonte finalement à 1904. Hein, donc le minerai en lui-même, nous on appelle ça potasse, hein, vulgairement, mais le minerai en lui-même s'appelle de la sylvinite. Donc la sylvinite, c'est un mélange de sel. Sous nos pieds, finalement, on a 1500 mètres d'épaisseur de sel, dont 4 mètres de sylvine qui ont donc été exploités.
Pour faire des engrais après.
Ah, tout à fait.
Est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ça ressemblait l'âge d'or ici du bassin potassique?
Dans les années 60-65, on était 13 500 personnes qui travaillions pour les mines. En plus, ce qu'il y avait pour attirer le mineur, il avait fait construire des logements. Hein, les logements, qu'on en voit quelques-uns ici, hein, donc ce qu'on appelait les cités minières, plus de 7 000 logements. Et ces logements étaient entretenus par la mine. Donc il fallait tous les corps de métier, que ce soit menuisier, charpentier, tapissier, peintre. Et chaque cité était pratiquement autonome. Hein. Ils avaient leur boulangerie, leur boucherie, enfin bref. pour l'âge d'or de la production, on était cinquième producteur mondial dans les années 80, entre 80 et 90.
J'ai noté 6 millions de tonnes par an.
Exact. Donc, gisement unique en France, c'est ici. D'où aussi cette richesse. C'est vrai, quand on compte les emplois induits que ça a créés, c'est quand même important. Donc, on était une région de plein d'emplois.
Il y a eu le déclin après. Est-ce que vous pouvez décrire ça?
Disons, le déclin s'est fait pourquoi? Tout simplement, on arrivait au bout du gisement.
Quand le projet Stocamine est arrivé, quel regard vous avez, vous, sur les choses?
Quand Stocamine est arrivé, nous, on nous a dit « Ah, c'est top, voilà. » On n'était pas contre. Hein. Nous, on nous a dit « C'est bien. » Donc, nous, on n'a aucun recul pour voir ça. Malheureusement, ça s'est mal terminé. Bon, maintenant, ça, c'est une autre paire de manches, hein, ce qui va suivre.
On est devant la maison de Pierre Vogt, le maire de Wittelsheim de 1995 à 2001. Son mandat, en clair, eh bien, c'est Stocamine. Il est l'un des élus locaux qui a vécu au plus près le début et la fin de l'exploitation du site.
Bonjour.
Julien Penaud, France Inter.
Santé, bonjour.
Ça va?
Oui, vous venez rentrer.
On s'est invité dans votre cour parce que...
Bon, voilà. Vous êtes chez moi.
Vous avez toujours vécu à Wittelsheim, vous?
Oui, je suis né à Wittelsheim.
Ah oui, carrément, vous êtes un enfant du pays.
Je suis né à, allez, à 500 mètres d'ici, la rue des Mines, et je m'appelle Vogt. Mon papa était mineur.
Vous êtes donc ancien maire de Wittelsheim de 1995 à 2001.
Tout à fait. J'avais des archives, entre autres, de ce projet Stocamine, par exemple. Ah, j'ai encore des... J'ai encore une boîte d'archives, là j'ai un certain nombre de dossiers avec des comptes rendus.
Stocamine au service de l'environnement.
Tout à fait, tout à fait.
Hein? C'est un petit flyer qui était distribué dans les boîtes aux lettres.
Oui, oui, tout à fait. Puis voilà, Stocamine c'est quoi? Quels sont les déchets concernés? Pourquoi seront-ils stockés au fond de la mine Joseph Fels? À l'époque, il y avait une convention à Bâle dans les années 90 qui disait qu'il fallait absolument que chaque région de l'Europe puisse gérer elle-même les déchets, entre autres les déchets ultimes. Et donc ça, c'était, entre parenthèses, presque une aubaine pour ces gens-là, parce qu'on n'avait pas de stockage où on allait le stocker. Et là, il y avait des mines, il y avait des galeries qui étaient ouvertes encore. Et donc, c'était un peu, à quelque part, une bonne...
Il y avait toutes les conditions.
Ben voilà. Ça créait des richesses, la reconversion industrielle. Vous voyez, c'était vraiment un projet global. Et c'était une forte pression, naturellement, pour les élus locaux aussi. Hein.
Résidus de mercure, cyanure, arsenic ou amiante, voici donc ces déchets ultimes, ces mêmes déchets qui, dans quelques jours, seront les premiers hôtes de Stocamine. Ce mois de novembre marque ainsi l'aboutissement d'un projet qui aura mis 10 ans à voir le jour. À 600 mètres sous terre, dans la couche de sel gemme, sous la nappe phréatique, seront entreposés les déchets industriels spéciaux. Pour mener à bien l'opération, Stocamine a déjà investi 70 millions de francs pour l'aménagement d'infrastructures. Les mineurs des NDPA ont creusé des galeries tout spécialement réservées au stockage des déchets.
En fait, c'était surtout la pression des mines, sa pression de l'État, et c'est la pression des mineurs qui voulaient avoir des emplois et tout. On pouvait pas, il fallait en tenir compte, quoi. Dans un contexte particulier de reconversion du bassin potassique, qui perdait un peu plus de 13 000 emplois à l'époque, il restait encore un peu plus de 2 000 emplois. Voilà. Nous étions 8 communes, et à part une commune qui était assez défavorable, c'était la commune de Lutterbach, les autres communes étaient d'accord parce que c'était un plan pour le futur de reconversion, d'utilisation au mieux aussi de ces déchets, les communes, mais aussi les syndicats des mineurs qui trouvaient aussi de quoi trouver des emplois ou continuer leur emploi parce qu'il y avait des jeunes mineurs qui voyaient leur avenir un petit peu compromis.
C'était un projet, voilà, ça suscitait pas mal d'espoir, j'imagine, c'est ça? C'était une aubaine, on se disait, ah, ça y est.
C'était pas tout à fait une aubaine, c'était quand même une drôle de responsabilité, parce que de dire qu'on met des déchets ultimes au fond de la mine, de nombreuses questions étaient posées. La première question, c'était la réversibilité. il n'y avait pas possibilité pour nous même d'envisager un stockage sans qu'on puisse sortir des déchets en cas de difficulté. Réversibilité, c'était l'argument principal. L'arrêté de M. le préfet en 97, hein, article 2 de l'arrêté du 3 février 1997, autorisant la société Stockamine à exploiter le stockage souterrain des déchets dangereux de Wittelsheim, fixé à 30 ans la durée de l'autorisation et prévoit la nécessité de retirer les déchets si l'autorisation n'était pas prolongée. C'était clair, quoi. Voilà. Alors le deuxième volet, c'était quel type de produit qu'on allait mettre au fond de la mine. Mais on avait quand même des garanties, des choses, voilà. Je peux vous montrer tous les documents que j'ai ici, c'était clair net, quoi.
Est-ce que vous vous sentez floué ?
À quelle part, oui. C'est un peu une affaire d'État, je ne le cacherai pas, c'est un peu une affaire d'État. Voilà,
et puis, je me rappelle au téléphone, vous m'avez dit j'ai mal vécu les années.
Oui, parce que en fait, on pensait bien faire dans l'intérêt des mineurs, de l'environnement, de tout ce qu'on nous a dit, tout ce que vous pouvez voir là-dedans. Voilà. Ensuite, on a descendu au fond de la mine des produits totalement interdits qui devaient jamais descendre et qu'ils ont mis au fond de la mine. Et puis voilà, il y a eu un incendie. C'est la logique commerciale qui l'a emporté sur la logique sécurité. J'ai très mal vécu ça. Très mal vécu parce qu'en fait, on a vu ce qui s'est passé après, hein, l'incendie.
Un puits d'aération transformé en cheminée.
France 3 Alsace, 10 septembre 2002.
L'incendie s'est déclaré tôt ce matin à 600 mètres sous terre. Rien de spectaculaire en surface, mais au fond, les équipes d'intervention des mines de potasse se sont relayées pour amener de l'eau et tenter de maîtriser le sinistre dont les origines sont inconnues. Il faut étouffer l'incendie en le privant d'oxygène, circonscrire la zone et surtout confiner les émanations qui peuvent être dangereuses.
Je m'appelle Jean-Claude Lossouzeau. J'ai été délégué mineur aux mines de potasse d'Alsace et en même temps délégué mineur de la partie Stockamine à l'époque. C'est moi qui ai été le premier à intervenir sur les lieux de l'incendie. C'est-à-dire un incendie dans le bloc 15 au niveau du stockage de Stockamine. Et ça, c'était la photo du
25 octobre 2002.
Catastrophe industrielle.
Oui, donc c'est un mois après l'incendie. Oui.
Aucun moyen de détection n'était mis en place. Il y avait 150 km de galeries au fond de la mine. Les mineurs n'avaient pas le droit d'aller dans l'entité de Stockamine, de stockage. Seul le délégué mineur avait le droit d'y aller, moi. Et donc, à ce moment-là, je vais à Stockamine. On croyait voir la tour infernale. Je ne sais pas si vous vous rappelez du film. Inimaginable. Le feu, et donc, que faire ? Confiner. Il faut qu'on prive le feu d'oxygène. C'est ce qui a été fait.
Il a fallu près de 2 mois pour qu'il s'éteigne.
Tout est beaucoup plus compliqué au fond de la mine.
Dans quelles conditions ils sont intervenus, les pompiers là, et les mineurs ?
Ils sont vraiment intervenus professionnellement en se sacrifiant presque, vous voyez. Okay. Les mineurs, au début, on nous disait « il n'y a pas de problème, c'est pas dangereux, les fumées et tout ».
En avril 2009, il y a la cour d'appel de Colmar qui condamne l'ancien directeur de Stockamine, oui, pour mise en danger de la vie d'autrui. Car ayant accepté des déchets non autorisés, oui, c'est la cause de l'incendie, des déchets stockés n'auraient jamais dû se trouver là.
Le gars qui était directeur à l'époque, d'accord, mais c'était le fusible. Hein. C'était une histoire de rentabilité. Ces déchets se sont retrouvés là parce qu'il y avait un attrait pécunier et il fallait rien refuser. Il suffisait de mettre un A, c'est-à-dire produit amianté. Plus personne n'avait le droit de regard. On pouvait y foutre ce qu'on voulait dedans. Vous voyez ? Moi, je vous dis franchement, on a évidemment fait confiance, enfin, une confiance aveugle, mais le gros du problème, c'est qu'il n'y avait pas de contrôle à l'arrivée des déchets sur le site de Stockamine, quels que soient les déchets.
Ben, il y avait bien un centre, un laboratoire pour faire,
oui,
des...
Oui. Ben, écoutez, moi, ça faisait un an que j'avais des doutes. Parce qu'à partir du moment qu'ils avaient déjà un an auparavant descendu des déchets au pyrolène au fond qui étaient interdits, j'avais plus confiance en ces gens-là. Ils ont laissé faire. C'était un intérêt économique qui primait.
Il ne reste que quelques colis de déchets mercuriels à sortir, mais jusqu'au bout, les mineurs qui exécutent le déstockage auront dû consolider les parois de la mine Joseph Hels pour travailler.
France 3, 8 novembre 2017.
Au total, le déstockage aura duré 2 ans de plus que prévu. 108 mineurs se sont succédés sur 25 postes, ce qui témoigne de la difficulté et du danger de ces opérations. Sur les 44 000 tonnes de déchets entassés au fond, seuls 2270 ont été sortis, ce qui représente toutefois 95% des déchets mercuriels les plus dangereux. Pour les MDPA, le risque sanitaire est donc écarté. Il faut maintenant tester les techniques de confinement des déchets. C'est ce qui se fait dans une galerie à l'écart du site de stockage. Ici, on va couler 2 bouchons de béton de 6 mètres de long.
Après l'incendie de 2002, le stockage s'est arrêté. Puis, entre 2014 et 2017, les déchets au mercure ont été remontés dans la perspective d'un confinement définitif, aujourd'hui validé. Aux grandes dames de défenseurs de l'environnement, d'habitants, d'anciens mineurs, d'élus, qui dénoncent encore une trahison de l'État, manque de contrôle sur les déchets descendus par Stocamine, promesses non tenues de transparence, de traçabilité et de réversibilité du site. Aujourd'hui, ces derniers opposants continuent de réclamer le déstockage complet plutôt que le confinement, même avec un sarcophage en béton qui limiterait les risques de pollution future. Julien Penaud est allé à leur rencontre à l'occasion d'une nouvelle manifestation organisée par le collectif Déstockamine à Wittelsheim.
Interception sur France Inter.
Ça fait 30 ans qu'on nous mène en bateau. L'eau potable est un droit fondamental. Aujourd'hui dans le monde, ceux qui veulent, c'est vendre leurs bouteilles. L'eau est un bien fondamental.
Les déchets dehors. Les déchets
dehors.
Les déchets
dehors.
Est-ce qu'il reste un stockamine?
Non.
Ils vont où les déchets?
Non.
Ouais, bravo, merci beaucoup.
Bétonnage des galeries égale eau empoisonnée. C'est le slogan qu'on peut lire sur une grande banderole déployée par les manifestants. Ils sont une petite centaine. Certains sont en combinaison de protection chimique, d'autres avec des casques de mineurs. Il y a des militants de l'association Déstockamine à l'origine de cette manifestation, des habitants de Wittelsheim et des alentours, des anciens mineurs aussi, quelques élus locaux qui viennent de prendre la parole, ainsi que des syndicalistes.
C'est quoi cette cigogne là que vous nous avez dessinée?
Alors c'est une zombie cigogne qui nourrit ses poussins pour sensibiliser les gens à la préservation des ressources naturelles. Stockamine, c'est la pollution de l'eau. Et il faut combattre cet encapsulage, ce bétonnage qui va nous empoisonner à long terme sur des générations et des générations.
Comment vous vous appelez?
Nicolas, et je suis un habitant de Wittelsheim.
Ressortir les déchets, ça serait très dangereux pour les mineurs.
Oui, ça, j'en suis parfaitement conscient. Mais de les laisser en dessous la nappe phréatique, veut dire après moi, les autres êtres humains qui vivront ici, là, en Alsace, dans le bassin potassique, ben, elle sera empoisonnée. Voilà, c'est ce que moi je pense.
Bonjour madame, je vous vois avec une tête de mort. Et sur cette tête de mort, il y a la fameuse coiffe alsacienne. Et c'est marqué Stockamine. Expliquez-nous.
Ben, l'Alsace est menacée par les déchets enfouis. Il y a de l'arsenic, il y a de l'amiante, il y a des déchets extrêmement toxiques.
Vous vous appelez comment madame?
Cécile Stoll. Ce qui m'énerve, c'est les mensonges de l'État, les mensonges de nos... qui, pour économiser 3 sous, prennent des risques absolument fous vis-à-vis de l'avenir. Est-ce qu'on a le droit d'impacter l'avenir des descendants de nos descendants? Même si c'était dans des siècles, c'est un cynisme absolument épouvantable de se dire c'est dans des siècles. C'est encore pire que... Enfin, je veux dire, c'est dégueulasse, quoi. On n'a pas le droit, on n'a pas le droit de tuer la vie et de... Voilà. Ça s'appelle un écocide annoncé. C'est intolérable.
Weil dieses Grundwasser, dieses Wasser, das läuft von Basel bis Frankfurt und es müsste eigentlich noch viel, viel mehr Leute da stehen, wenn sie bloß wüsste, was hier los ist. Ich freue mich, dass ihr kämpft. Ich helfe euch so gut ich kann, meine Kollegen auch.
Mon nom est Stéphane Auchter, directeur du Bund à Fribourg. Le Bund, c'est une association de protection de la nature et de l'environnement. On ne sait pas exactement quel sujet de poisson.
Les poisons, hein, c'est ça que vous dites.
Les déchets, oui, dans le sol. Donc on ne peut pas dire exactement ce que va se passer si ce poisson va arriver dans la nappe phréatique. La nappe phréatique, ça vient de Bâle et ça coule jusqu'à Francfort. Donc c'est aussi un problème allemand, peut-être. Mais moi, je me sens comme européen. Donc je ne vois pas le point de séparer entre de l'eau française ou de l'eau allemande.
Yann Fleury, vous êtes le porte-parole de Destocamine, qui regroupe 15 associations de défense de l'environnement. Ça fait maintenant plus de 20 ans que vous luttez contre Destocamine. Là, maintenant que l'enfouissement va débuter ou est sur le point de débuter, dans quel état d'esprit vous êtes ?
Les choses avancent dans le mauvais sens. On s'attend à des sécheresses comme on n'a jamais vu, à une raréfaction de l'eau, à une eau qui est déjà polluée. Comment peut-on continuer à la polluer avec cette bombe à retardement ? Qu'on trouve sous nos pieds. Non, il y a quelque chose d'incompréhensible. Quand je dis que le gouvernement est schizophrène, ouais, il vit à côté de la plaque, complètement.
Mais on se dit aussi qu'il y a eu des études, des expertises, des contre-expertises.
On n'arrive jamais à vérifier les expertises. Ce n'est qu'à l'expérience qu'on les vérifiera. Et donc nous, on est dubitatif, on n'y croit pas. Expertise qui se porte sur 200-300 ans, c'est de la boule de cristal. Et ça, il faut arrêter de nous raconter des blagues. Quoi.
La parole scientifique n'a pas de valeur à vos yeux ?
La parole de l'expert répond à celui qui la commande. L'expertise. Or, l'État commande des expertises qui vont forcément dans son sens. Non, on ne croit plus aux experts. C'est pas sérieux.
On pourrait aussi dire que c'est pas sérieux de croire qu'on peut encore tout ressortir. 42 000 tonnes.
Alors, moi qui suis descendu plusieurs fois au fond de la mine, il y a quelques années déjà, je crois qu'on peut sortir une grosse partie sans problème. Il n'y a pas la volonté de les sortir, c'est clair et net.
Mais c'est une question de volonté, c'est pas une question de possibilité.
C'est une question de volonté, simplement. Et ça fait 20 ans qu'on nous mène en bateau. Enfin, s'il y a une volonté politique de tout laisser au fond, voilà, c'est clair. Si ça se trouve, les jeunes vont monter en puissance, parce que c'est une génération qui se mobilise.
Il y en a qui racontaient, ça fait 30 ans qu'ils militent. Moi, il y a 30 ans, j'étais même pas une idée dans la tête de mes parents. Donc, franchement, merci d'avoir fait cette lutte. Vous l'avez fait pour celles et ceux qui vont venir après nous. Et nous, on est là pour soutenir, on est là pour continuer cette lutte. Nous, on est la génération Sainte-Soline. On sait ce que c'est de faire face à l'État et de tenir jusqu'au bout pour pas que les projets controversés se fassent. Alors, avec la génération Sainte-Soline, avec la vôtre, avec les plus anciens et les plus anciennes, on va continuer à se battre. Et croyez-moi, on va réussir à faire déstocker ces déchets.
Pardon, je mettais un petit peu en ordre.
Je suis un peu notre France Inter.
Ok, enchanté. Venez, rentrez. François Zinde, avocat en droit de l'environnement, spécialiste en droit de l'environnement au barreau de Strasbourg et avocat de l'association Alsace Nature depuis 2017.
Le Conseil d'État a donc donné son autorisation pour lancer les travaux d'enfouissement, un jugement sur la forme. Quelles sont maintenant vos dernières cartes, si je puis dire ?
Alors on en a plusieurs, mais la principale c'est déjà que le tribunal administratif se prononce sur le fond, parce que là le Conseil d'État s'est prononcé sur l'urgence, et a considéré qu'il y avait plutôt urgence à enfuir qu'à suspendre les travaux, et donc maintenant le tribunal administratif va se prononcer sur le fond du dossier, est-ce qu'il est légal ou pas, c'est assez aussi basique que ça, et puis ensuite on a tout un volet pénal encore, où on va être devant la cour d'appel de Colmar.
Si jamais les travaux d'enfouissement commencent, que ça commence à être bétonné...
C'est une course contre la montre. Il y a ceux qui essayent de retarder au maximum, ça c'est moi, et ou d'empêcher, et puis en face d'accélérer au maximum pour mettre le juge devant le fait accompli. Mais dans ce cas-là, on aurait encore la possibilité de saisir en urgence la Cour européenne des droits de l'homme. Là, on a une machine de guerre en face. Enfin, en tout cas, c'est l'État dans toute sa splendeur, à la fois l'État via la société Stocamine, hein, qui est à 100% par l'État, les services de l'État, tout le monde est vent debout pour pouvoir enfuir. Et nous, on est un petit cabinet et l'association Alsace Nature est une association agréée pour l'environnement. Mais enfin, c'est quand même David contre Goliath. Tant qu'il y a des déchets enfuis et qui ne sont pas déstockés, l'espoir est encore là. Les arguments d'en face, c'est de dire l'état des mines sont tels qu'aujourd'hui, on ne peut plus déstocker. La construction d'un sarcophage en mine de sel profonde, on ne l'a jamais fait, hein. Ben, dans le monde, ça n'a jamais été fait. C'est justement ce sarcophage de béton qui garantit un ralentissement de la propagation de la pollution dans la nappe d'ici 70 ans, 300 ans, 1000 ans, 5000 ans. C'est très aléatoire parce que c'est des modélisations, parce que ça n'a jamais été fait. Et donc, ça va juste ralentir la transmission de la pollution. C'est une bombe à retardement, tout simplement. Est-ce que l'environnement et les générations futures vont être les seuls à payer ce risque? On a suffisamment d'éléments techniques pour dire qu'on peut encore déstocker. Et là, la grosse fumisterie, c'est de dire que c'est plus possible. S'ils ont été capables, entre 2014 et 2017, de sortir des déchets, de choisir parmi l'ensemble des 40 000 tonnes de déchets, les produits soi-disant les plus dangereux, mercure et arsenic et ziram. Pourquoi aujourd'hui ils ne seraient plus capables de tout simplement les prendre et les relever? Donc on a un fort doute sur la conformité des déchets. On a suffisamment d'éléments dans l'enquête pour démontrer qu'il y a eu malversation et en tout cas effacement de données, notamment informatiques, dossiers jetés dans des bennes à la suite de l'incendie de 2002. On a des producteurs de déchets qui ont fait n'importe quoi à l'époque, soutenus par l'État depuis une vingtaine d'années. Et l'idée, c'est de dire « Ah bah c'est trop tard, fermez les yeux, on ne verra jamais comment a été enterré le cadavre. » Et aujourd'hui, le fait d'avoir toute cette opacité sur les conditions de gestion de l'époque, ça pose vraiment un problème sur toute la maîtrise des risques qui a été annoncée par les MDPA.
Alors pour terminer ce reportage, on est retourné au siège des MDPA, les mines de potasse d'Alsace. Je vais rencontrer la directrice, ou plutôt la liquidatrice des MDPA et de Stocamine. Céline Schump est chargée par l'État de fermer les MDPA, d'arrêter toutes les activités. Donc ça veut dire fermer le site de stockage des déchets au fond de la mine, ensuite fermeture des puits d'accès et enfin fermeture définitive de la mine.
La fermeture par confinement du stockage, c'est le résultat d'expertise. L'urgence, elle est liée à l'état de la mine.
Est-ce que c'est un fantasme de penser qu'il y a un risque pour la nappe phréatique ?
Prétendre que la plus grande nappe phréatique d'Europe pourrait être polluée, ça c'est réellement un fantasme. Il y a un potentiel risque d'épanchement de saumure polluée dans la couche inférieure de la nappe, qui n'est pas utilisée, hein, parce qu'elle est naturellement impropre à la consommation, sur une largeur maximum de 140 mètres.
Dans une analyse bénéfice-risque, il vaut mieux confiner le tout plutôt que de ressortir ces déchets.
Sortir les déchets, nous, aujourd'hui, exploitants miniers, notre position est de dire « ce n'est plus possible, c'est trop dangereux ». Du fait de la fermeture naturelle des terrains. Tous les experts convergent pour dire qu'il n'y a aucun bénéfice environnemental à sortir les déchets. Aujourd'hui, il n'existe aucune solution de valorisation des déchets qui sont stockés. Et pour leur grande majorité, leur élimination ne peut se faire qu'en mine de sel. Pourquoi on a fait le déstockage entre 2014 et 2017 ? C'était pour déstocker le polluant le plus impactant, qui était le mercure. Donc on a sorti 95% du mercure.
L'arrêté préfectoral de 97 écrit « L'exploitation du stockage sera conduite de façon à assurer à tout moment la possibilité de retrait tout ou partie des déchets ». Est-ce que là, il n'y a pas un lien vraiment qui a été rompu entre la promesse de la réversibilité et la situation actuelle ?
Moi, je peux vous parler d'une situation que je connais depuis 2009. Je n'étais pas là au moment des décisions qui ont été prises pour le stockage. Ce que aujourd'hui je peux vous dire, c'est que le stockage n'est plus réversible.
Mais ça, cette promesse, quand même, j'ai des anciens mineurs qui me parlent de trahison, vous voyez.
J'en suis désolée, je l'entends. Toujours est-il que nous ne pouvons que prendre en compte la réalité actuelle du terrain. Le problème de confiance avec la population et certains élus locaux, je suis désolée que tout le travail de transparence, de communication, de publication des études, d'échange, n'ait pas abouti à restaurer cette confiance. Je pense que l'incendie de 2002 a définitivement cassé le lien. Ceci étant, je crois qu'il faut aussi accepter que le mal a été trop grand pour pouvoir réparer cette erreur.
Laquelle ?
L'incendie qui a été causé par un irrespect de l'arrêté préfectoral. Ce dont je peux vous assurer, c'est que lors des opérations de déstockage, aucun déchet inattendu n'a été trouvé. Que toutes les analyses qui ont été conduites, à peu près 1000 hein, depuis 2009, aucune n'a montré un déchet qui ne devrait pas être là. Voilà ce que je peux vous assurer.
Stockamine, déchets toxiques sous nappe phréatique, un reportage de Julien Penaud, prise de son Benjamin Troncin. Réalisation Guillaume Giraud, mixage Étienne Collin. Cette émission est disponible à la réécoute sur franceinter.fr et en podcast sur les applications du groupe Radio France.